Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Antonia est native du Mexique. Elle vit en France depuis plusieurs années et exerce la médecine ancestrale de sa région d'origine. Elle propose également des initiations et des transmissions de la tradition mexicaine. Dans cette émission, on parlera des différents rituels et des cérémonies de célébration de la vie et du vivant. Cela fait partie du quotidien de l'âme de son peuple. Antonia nous invite à établir une relation harmonieuse avec soi, avec l'autre et avec la terre-mère, la Terra Madre. C'est lors d'un festival que j'ai rencontré Antonia. Séduit par son enthousiasme et son énergie positive, en lui donnant la parole, j'ai eu envie d'en savoir plus sur son parcours et les valeurs qu'elle souhaite nous transmettre. Voilà, donc l'émission s'appelle « Regard d'ailleurs ». Un regard d'ailleurs, c'est cette envie d'élargir sa vision sur soi, sa vision sur le monde, à travers des rencontres, à travers différentes traditions. Avec moi, sur le festival Au cœur du sacré, Antonia. Donc Antonia, je te rencontre, tu m'expliquais que tu es mexicaine et tu es là pour faire différentes cérémonies. Je t'ai vu hier lors de l'ouverture avec une bouteille et de la fumigation, je te voyais souffler sur les arbres. Donc voilà, l'idée c'est qu'on prenne le temps de te rencontrer à travers ce micro et qu'on découvre un petit peu qui tu es. Donc on va revenir peut-être à ton enfance, parle-moi du contexte culturel dans lequel tu es née, qui tu es et d'où tu viens.
Merci pour l'invitation, avec plaisir de partager un petit peu de un petit morceau de ce que je suis, de ce que je transmette tout simplement, la tradition des Mexiques et de là où je viens, en toute simplicité. Ce que j'appelle aussi la voix du cœur, et je travaille beaucoup avec la nature, avec des rituels, avec des cérémonies, et pour accompagner aux gens à se relier à la nature. Il y a des choses qui sont très simples, qui sont très accessibles à tous, et il y a des autres choses qui demandent plus de travail, plus d'initiation, au plus longtemps aussi, et dans les traditions que je travaille.
Avant de parler de tes transmissions, avant de parler de tout ça, des rituels que tu proposes, donc là tu me dis donc tu es mexicaine, oui. Et le Mexique c'est grand, donc au Mexique il y a différents peuples, différentes ethnies, donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être mexicaine? Est-ce que ça représente quelque chose, sachant que tu as une diversité au sein du Mexique? Donc qu'est-ce que c'est que pour toi être mexicaine aujourd'hui?
Pour moi, être mexicaine, c'est vrai que moi, dans ma notion de la vie, de comment je vois le monde, je suis quelqu'un qui croit qu'on a des racines, on est un endroit, mais que finalement, pour moi, la mère terre, la Pachamama, la Tonantzin, en fait, elle entend juste les sons de la vibration de l'amour, du cœur, et qu'il n'y a pas vraiment une nationalité. Donc, je reste quand même très... très universel. Mais je viens du Mexique, ma famille, on faisait moitié du temps à Mexico, qui est, c'est la ville, et on faisait moitié du temps dans un petit village qui est à côté des pyramides de Teotihuacan, qui s'appelle Acolman. Donc c'est un tout petit village qui a mélangé les traditions, et moi à travers beaucoup de ma mère qui avait cette culture et cette tradition, c'est beaucoup elle qui m'a transmis. Et tout ce que je partage aujourd'hui, bien sûr, avec aussi mon papa qui était quand même quelqu'un qui était très lié à la culture mexicaine, mais non seulement dans l'espace de curanderos, de chamanis, mais aussi dans tout ce qu'est la notion du Mexique, l'histoire, l'art, le cinéma, la musique aussi, beaucoup de musique mexicaine, folklorique et aussi ancestrale.
Donc toi, tu as grandi dans un univers culturel très riche, donc avec un papa qui effectivement pratiquait tout ce qui était rituel, tout ce qui pratiquait musique.
Bah, mon papa, c'était plus quelqu'un qui était beaucoup dans tout ce qui est la culture du Mexique, l'histoire, la philosophie, l'art, la musique, le cinéma, et il m'a beaucoup enseigné la musique, et d'ailleurs aussi le cinéma, c'était une des choses qu'il adorait. Mais c'est plus ma mère, parce que ma mère, elle faisait toujours ses rituels, ses offrandes, elle se connectait beaucoup aux arbres, elle travaillait beaucoup avec de plantes, mais des choses tout simples que j'ai grandi en regardant ça, et que Et ce qui me touche beaucoup aujourd'hui, c'est que finalement, d'une ou d'autre manière, je reproduis ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, et je le fais un petit peu à ma façon. C'était drôle parce que moi, à Mexique, on nettoie avec l'œuf. Avec l'œuf. Et moi, j'ai toujours sous ma maman que si on avait mal au ventre, elle sortait l'œuf et elle nous faisait un nettoyage à l'œuf. Et avec nous, il y avait aussi une dame qui était la dame qui soignait dans les villages. Donc, elle nous soignait toujours avec l'œuf, elle nous apprenait des petites choses. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un peu. Je pense qu'en Amérique latine, c'est un peu plus habituel, en fait. Si tu as quelque chose, tu vas chercher un curandero ou tu vas utiliser les plantes. Un curandero, c'est quelqu'un qui guérit, qui soigne, qui travaille avec les plantes, qui est un chaman, comme vous appelez ici.
Donc la médecine traditionnelle est au Mexique plus présente que chez nous en France. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup la médecine allopathique, c'est beaucoup la médecine conventionnelle. Donc, est-ce que tu as l'impression qu'au Mexique, il y a encore cette culture de continuer à préserver des traditions et se soigner avec les plantes plus que chez nous en Europe ou en France ?
Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a des gens qui gardent et qui continuent à transmettre la tradition, mais comme on sait, dans beaucoup de cultures, les capitalistes, l'actualité fait que beaucoup de choses se perdent. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, je pense qu'on est quand même une culture qui travaille beaucoup avec les plantes et avec cette notion plus en lien avec la terre, mais en même temps, il y a des doutes. En fait, je pense que c'est pareil en France, il y aurait sans qu'il y a cet appel aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont cet appel de la nature, d'échanger les choses, de travailler autrement dans l'énergétique. Donc, je pense que c'est ce qui est vrai, c'est que là-bas, on a beaucoup plus gardé la tradition ancestrale. C'est-à-dire que quand il y a eu la colonisation des Espagnols, les indigènes, ils cachaient ces déesses, enfin ces statues pour prière par-dessous les statues des catholiques. Donc même s'ils étaient là, ils continuaient à prier à ces dieux et aussi ils continuaient à faire ces rituels. Donc je pense que cette tradition ne s'est pas perdue. Donc la transmission orale, le travail avec les plantes, le travail avec les médecines, en fait ça restait dans la société parce que Mexique c'est 32. Il y a 32 dialectes, 32 ethnies à peu près, donc c'est vrai, si je ne me trompe pas. En fait, c'est très riche, il y a différences, c'est métis, il y a les mayas, il y a tout ce qui est les racines des aztèques, des teotihuacans. Donc, Mexique, c'est très, très riche. Mais je pense qu'ici, c'est vrai qu'il y a une coupure peut-être qui se réveille. Moi, c'est ce que je pourrais sentir ici. Mais pour moi, on est tous pareils.
Antonia, donc tu es mexicaine, tu es là sur ce festival, mais aujourd'hui on parle en français. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé dans ton itinéraire personnel ? Qu'est-ce qui a fait que tu quittes le Mexique ?
La vie passée. Non. J'ai déjà travaillé avec les spiritualités, avec les yogas, avec toutes les traditions ancestrales. Et c'est vrai que en fait, c'est un peu la vie personnelle qui m'a amené une situation un peu compliquée à Mexique qui a fait que mon frère qui habitait en France, il m'a dit « Viens en France, en fait, tout sera mieux. » Et c'est un peu la vie qui m'a amené. En fait, je n'ai pas vraiment choisi comme tel. Je suis arrivée, tout simplement, et je suis partie ici. En début, j'étais beaucoup dans les yogas aussi, donc j'étais...
Le yoga, ça, tu l'as découvert en arrivant en France ou déjà au Mexique ?
Déjà au Mexique, je l'avais découvert, déjà au Mexique, oui.
Tu peux partager avec nous cette situation compliquée dont tu parles ?
Aïe, bon, je vais le dire. Non, en fait, c'est que... Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas ? Toulou. En fait, c'est... J'allais me marier. Oh. Et j'avais un copain, mais à Mexique, il y a beaucoup de machisme. Donc, il y a beaucoup de femmes qui suivent la violence ou des hommes qui sont jaloux. Et puis, malheureusement, c'est pas que c'est un peu normal, mais ça arrive souvent. Donc, j'étais en relation avec quelqu'un qui pouvait être colérique. Et du coup, c'est vraiment mon frère qui m'a dit « Parte, c'est mieux ». Et
du coup, donc c'était un moyen d'échapper finalement à ce mariage qui était un mariage d'amour ou c'est encore par tradition ?
Non, c'était j'étais très jeune, mais non, je voulais venir en France, mais en fait j'ai toujours fait confiance, je vais où la vie m'amène. Donc je travaille avec les cœurs m'a dit France, je le sentais déjà venir et finalement lui il m'a dit viens. Et oui, ça m'a permis aussi comme femme, parce que c'est vrai que la situation à Mexique, c'est différent. Enfin, je trouve qu'ici, la femme est quand même un petit peu plus libre. Il y a quand même moins de cette situation. Ça existe, mais pour moi, c'est aussi une façon d'aussi avoir envie un petit peu mieux, comme beaucoup de personnes. Mais je continue à aider à Mexique, je continue à rester en lien. Mais bon, donc je suis partie. Voilà.
Donc tu es arrivée en France il y a combien de temps?
J'arrive il y a 12 ans.
Avec de temps en temps des retours au Mexique dans ta famille?
En début, j'allais tout le temps à Mexique, beaucoup, tout le temps. Et j'ai eu un moment où mon père est tombé malade, donc je allais 2-3 fois par an. Et là, voilà, là je suis partie plus à l'Amazonie. Il y a un moment où je voulais aussi rencontrer les traditions d'Amazonie. Donc voilà. Mais le Mexique, d'habitude, oui. J'essaie d'aller régulièrement. Je me suis mariée et j'ai 2 enfants, petits. Et après, j'ai divorcé. Voilà. Okay. Donc, c'est vrai que pour habiter à Mexique, j'ai mes enfants ici. Et j'adore le Mexique. J'aime beaucoup. C'est juste qu'il y a juste un point, l'insécurité. En fait, je pense que comme femme, quand tu as vécu des choses difficile, je pense que moi j'aime bien être en France comme femme. Je pense que je peux m'épanouir un petit peu plus, être plus libre, parce que j'étais comme dans un contexte où il y a le machisme, mais ça change, hein. Les hommes aussi évoluent là-bas. Je sens qu'il y a un réveil des hommes aussi, même en France, qui se réveillent, qui changent, et voilà.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc voilà, tu parles de se reconnecter au cœur. Donc comment faire? Qu'est-ce que tu proposes? Quels sont les... Si maintenant je te dis... Donc si je te demande, Antonia, aide-moi à trouver la voie du cœur. Qu'est-ce que tu me réponds? Comment est-ce que tu m'accompagnes sur ce chemin?
Alors, moi, ça dépend. Vraiment, des fois, il y a plusieurs espaces, il y a plusieurs couches. Il y a des gens qui vont n'être pas prêts pour aller faire des travaux plus loin, par exemple avec des plantes, avec des diètes, peut-être avec des retraites plus profondes. On est isolé, on retraite, on a une nourriture adaptée, on travaille avec les arbres, etc. Mais peut-être quelqu'un qui commence aussi, ça peut être des choses tout simples. Moi, à chaque fois, je dis, si tout est sans perdu, et ça, c'est le chemin du cœur, si tout est sans perdu, pose une bougie, mets ton autel, fais un petit espace sacré chez toi, et juste pose-toi là. Regarde la lumière de la bougie, rappelle-toi d'où tu viens, qui tu es et où tu vas. Rappelle-toi de tes ancêtres, de ton père, de ta mère. Si tu te sens perdu, toi juste à t'asseoir devant un autel. Mais l'autel, ça peut être une bougie, ça peut être un arbre. Les arbres, c'est des sages. Les wéwé, tu t'assois, tu parles avec lui. Pour moi, ça, c'est le début, en fait. Le cœur, c'est là. En fait, je me pose, je me connecte, je me retrouve. Ça, c'est la base.
Donc faire un pas de côté et observer le bruit du monde, on se rend compte qu'on vit dans un... Tout va très vite, tout est très bruyant, donc c'est vraiment s'extraire de ça et essayer de retrouver une sorte de paix, de calme intérieur et de se retrouver seul avec soi, c'est ça que j'entends?
Pas forcément, ça dépend, parce que par exemple quand on fait des cérémonies, des danses, les danses aztèques, en fait on danse devant l'autel. On danse devant l'autel, on amène nos offrandes, on amène nos bougies, chacun apporte sa touche et on se met devant l'autel. Parce que c'est l'ombril des mondes, c'est le cœur. Mais on peut se bien retrouver à soi tout en étant dansant les uns aux autres. En fait, je pense qu'on est différent. Ça dépend de chacun. Moi, je ne te connais pas. Mais par exemple, si je te connaîtrais ou si on parlait plus profond, je pourrais te dire, toi, c'est plus la douceur. Toi, c'est plus la peinture. Toi, c'est plus... Voilà, ça dépend de chaque personne, parce qu'on est très différentes. Il y a des gens qui ont besoin d'un nettoyage fort, de faire des choses un peu plus fortes, mais ça dépend aussi les rythmes de chacun. En fait, pour moi, ça ne peut pas travailler pareil. Et il y a des fois où simplement, moi, je dis à des personnes, je ne peux pas tu as besoin de voir quelqu'un d'autre qui puisse te guider vis-à-vis de ce que tu traverses, parce qu'on a une limite et on a aussi des niveaux et chacun a sa possibilité.
Tu parles de diète et tu parles de plantes. Alors quand je pense à plantes et à diète et que je pense au Mexique, il y a ce bouquin, ou plutôt ces bouquins qui ont été écrits par cet anthroposophe ou anthropologue Carlos Castaneda au Mexique, hein, avec une communauté d'Indiens Yaqui. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Est-ce que c'est connu là-bas au Mexique, le travail de cet homme?
Ah oui, bien sûr, Castaneda, c'est très très connu et moi j'aime beaucoup sa façon de travailler parce qu'il travaille beaucoup dans les rêves. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les rêves. En fait, les rêves, c'est aussi l'inconscient, c'est la connexion. En fait, on dort la tiers de la journée. Donc, moi, je suis convaincue que dans les rêves, son façon de se rencontrer, c'est connaître. Et lui, il travaille beaucoup avec les rêves. Donc oui, évidemment, c'est quelqu'un de très connu, très reconnu, et non seulement à Mexique. Donc c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi.
Antonia, parle-moi des plantes.
Qu'est-ce que tu veux savoir des plantes?
Donc tu parlais de cérémonie, tu parlais de diète et l'usage des plantes. Est-ce que tu utilises des plantes? Comment? À quel usage? À quoi ça sert? Partage-moi un peu des expériences personnelles que tu as vécues et qui ont été fortes, impactantes sur ton chemin de vie.
Alors en France, les plantes psychotropes, c'est interdit. Donc en France, je ne travaille pas avec des plantes psychotropes. Et j'étais partie en Amazonie et là j'ai rencontré la madre et j'étais restée en jungle et c'est une expérience magnifique. Après, à chaque fois je le dis, pour travailler avec des plantes maîtresses et des plantes pour travailler, pour guérir, il faut être bien guidé. Il faut avoir un bon chaman qui peut te guider, qui peut t'accompagner. Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu une mode. Un commerce, et des fois il y a des gens qui travaillent avec des plantes et ils sont pas encore la expérience ni la capacité pour pouvoir travailler avec, et ça peut être très beau mais ça peut être aussi dangereux, et je profite aussi de cet espace pour vous dire que il faut faire très attention quand on pratique avec les plantes, d'être bien guidé avec quelqu'un qui sait accompagner une cérémonie, qui sait accompagner un travail long. Moi, je suis tout déboutante. Les chamans que j'ai rencontrés en Amazonie, il a 65 ans, il a diété 250 heures, il a travaillé des années pour pouvoir travailler avec cette plante. Parce que ça, je pense que pour les plantes, il faut quand même diéter. Ça veut dire travailler avec l'esprit de la plante. Donc, il faut diéter un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an. Et l'Amazonie, c'est une pharmacie des médecines, de la terre, mais c'est quelque chose qui s'est fait dans un cadre. Et le cadre, c'est super important dans le monde spirituel. Je n'ai rencontré des gens qui ont été très touchés, très bougés par des prises de plantes sans un bon guide. Et qu'après, il a fallu faire un énorme travail pour les rééquilibrer, parce que ça a causé des soucis forts. Donc je fais cet accent parce que moi, j'étais très surpris quand je voyais ici que ça se donne comme ci, comme ça, qu'il y a des diètes à respecter, on jeûne, on ne mange pas de sucre, on a fait de l'abstinence sexuelle aussi quand on fait des cérémonies. Il y a vraiment tout un travail de préparation du corps, du mental, de l'esprit, avant et après, pour pouvoir faire une prise, une plante maîtresse. Pour la tradition de l'Amazonie, à Mexique, ça peut varier, hein, mais en tout cas, je conseille de passer à foller, « Ah, je vais goûter ça. » Non, 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 non. Je pense qu'il faut laisser le temps, il faut toujours voir qui, quel chaman, sentir les choses et toujours s'écouter. Et pas aller trop vite, n'allez pas vite. Moi, je trouve qu'on aime vite parce que c'est le pouvoir, c'est... Mais je connais des gens qui ont dû partir en Amazonie, retourner voir des chamans, diéter longtemps pour retirer justement des travaux mal faits, peut-être par des chamans qui n'avaient pas l'expérience ou qui ne connaissaient pas, ou on ne sait pas, le monde de la magie aussi, il y a des choses qui... Voilà, c'est comme tout dans la vie. Mais moi, j'insiste beaucoup dans les plantes, je sais que ça peut être très... Mais je pense que c'est quand même une énergie très forte. Donc, il faut savoir la maîtriser. Et ça peut rendre aussi addict. En fait, c'est, est-ce que c'est vraiment un travail ou c'est une fuite? Je le vois même avec les... Je me permets, avec les râpés. Maintenant, les râpés, c'est devenu... tout le monde prend des râpés ici par là. Mais le râpé, c'est une médecine. Il faut être poussé, il faut être en nature, il faut veiller le cadre. En fait, on ne peut pas juste consommer. Enfin, il y a une chose. Mais de toute façon, les plantes, c'est des esprits. Il y a la lumière, il y a l'ombre. Donc, si tu ne fais pas les choses alignées, ça risque de faire des dégâts. Donc, il faut quand même toujours rester très, très vigilante à cet endroit. Mais je fais beaucoup l'accent parce que je vois souvent dans les restes, dans tout, des choses qui se font à droite, à gauche. Moi-même, j'étais allée en cérémonie des râpés, des cacao, où la fille qui faisait la cérémonie, elle est très connue, elle a plein de monde dans ses réseaux sociaux. Ma copine est tombée très malade pendant la cérémonie. Et elle a continué, elle a clôturé, elle continuait à prendre des photos, c'était fini. Et ma copine était par terre et on a dû l'aider après pour sortir parce qu'elle avait... Voilà, ça a été trop fort, mais c'était pas géré au niveau de l'énergie.
Donc quand tu dis bon cacao, on connaît. Râpé, c'est quoi?
Râpé, c'est du tabac en poutre. C'est plus en Amazonie que ça se travaille. Et ils mettent des plantes, ça peut être quelques arbres, aux plantes, ça dépend qui le prépare. Mais ici, je vois que ça se consomme beaucoup. Et bon, je peut-être, je n'ai pas envie d'être la personne, non, fais pas ça, mais... Mais je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect pour la nature, beaucoup, beaucoup de respect pour les plantes. Les gens qui donnent des plantes, ils se forment des années. Soit ils sont avec eux, avec une tradition comme les maracamés, comme les gens qui travaillent avec la madre, mais soit il faut se préparer longtemps. Longtemps, vraiment.
Il y a tout aussi une forme de tourisme qui est en train de se mettre en place autour de l'ayahuasca, notamment.
Oui, non, même à Mexique. C'est vrai que des fois, il y a des touristes qui vont et juste pour faire la découverte et des fois, ça peut être dangereux. Mais, je vous dis, si tu le fais avec un très bon guérisseur à Pérou, parce qu'à Pérou, c'est légal. Donc, moi, je peux te dire, pour moi, ça a été guérisseur, c'était des enseignements, c'était vraiment magnifique parce qu'en état de conscience modifié, avec l'aide du chaman, en fait, il arrive à, avec les chants, juste avec les chants, la vibration des chants, il arrive à déprogrammer le cérébro et à changer des choses très profondes dans l'inconscient. Donc, quand c'est des très bons guérisseurs, c'est très beau. Après, pareil, pas tout le monde peut l'apprendre parce qu'il y a aussi des choses médicales où c'est pas conseillé. Ça dépend, mais pour ça, il faut vraiment faire tout en... Avant de l'apprendre, il faut se préparer.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Avant, tu parlais de conscience modifiée. Donc voilà, raconte-nous ce qui se passe quand tu diètes et ensuite quand tu prends la plante.
Qu'est-ce que c'est cette interview? En fait, je pense que la madre te montre est-ce que tu dois travailler. Donc pour des gens, ça peut être... En fait, je ne peux pas te donner une réponse vraiment parce que chacun le vit différemment. Et ça dépend ce que tu portes. Pour te dire, moi, j'avais fait du yoga des années. Je n'étais sûre que j'allais être en méditation complète. Et il y a quelqu'un qui m'a dit attention parce que la madre va t'enseigner. La première fois, ça allait, des bonnes visions, mais la deuxième fois, non. J'ai vu vraiment le monde, les peurs, c'était vraiment oh, dur. Mais là, c'était très beau parce que les chamans là-bas, ils sont venus chanter, toute la famille, parce que c'est une famille, ils m'ont chanté. Et c'est là où je sentis que vraiment, ils sont venus guérir à tout ce qui est peur. Et après, ça va. Mais je pense qu'en fait, elle te montre ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien sûr, il y a des choses de l'extérieur, mais ça va dépendre de ce que toi, Donc je ne peux pas dire... En fait, c'est très difficile d'expliquer les visions. Enfin, je ne peux pas donner vraiment une réponse.
Et maintenant, quelle va être la suite à donner à ces expériences? Quel est le chemin de vie que tu as envie d'emprunter? Comment est-ce que tu imagines l'avenir?
En fait, je pense que tous ces bouleversements, tout, je pense que je ne fais plus de projections. Et ça, ça m'a fait un bien fou de plus projeter. Vive le présent. Remercie chaque jour. Des fois, on projette, ah, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Ah, je suis ci, je suis ça. Mais finalement, tu te rends compte qu'en fait, on est juste ici pour vivre le présent. En fait, je crois qu'aujourd'hui, je suis libre. Et ça, je peux dire que je me sens assez complet tout en étant avec moi-même et que je fais confiance à la vie. Elle m'amènera là où je dois être. J'ouvrirai là où je dois ouvrir. Et je n'ai pas envie de me poser la question. En fait, j'ai juste envie de te dire merci. Aujourd'hui, je peux marcher, je peux parler, je peux partager, je peux danser. Parce que aussi la maladie de mon père, le voir handicapé en fauteuil roulant, perdre toutes ses capacités, je me dis on est bête des fois dans la vie. Et se prendre la tête pour des choses bêtes, alors qu'on a la santé. Si on a la santé, bah c'est magnifique. Tu peux te prendre un petit cafécito avec tes copains, tu peux te prendre un petit cafécito près d'un arbre, tu peux marcher. En fait, c'est waouh, on est là pour vivre pleinement avec les cinq sens, pleurer s'il y a besoin de pleurer, sortir l'émotion s'il y a besoin de sortir, chanter. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est la vie. Je veux juste. Je ne me pose pas la question de si ça... Non. Et je pense que pour quelqu'un qui était très porose, et que je voulais tout rassurer, tout est bien, nanana, je pense que déjà, ça, c'est la magie de la vie. Ah
oh, c'est super, tu papotes bien. Et maintenant, quelles sont les peurs qui restent à guérir ou quelles sont les blessures que tu m'as encore guérir aujourd'hui?
Moi, c'est vraiment, si j'ai une chose encore à guérir, je pense que c'est l'espace du couple féminin. Je pense que je suis en train de guérir et me rencontrer, en fait, être avec moi-même, être seule avec moi-même. Je pense que c'est un cadeau et je suis en cette guérison de... Voilà, faire une construction différemment de ce que je pensais qui pouvait être les couples, qui pouvait être moi-même, qui pouvait être si. Je pense que j'ai encore un travail à faire à cet endroit-là, même d'être transgénérationnel, de comment une femme doit être, que même si on fait beaucoup de travail, de nettoyage, de nanana, finalement, tu te rends compte que tout continue à cheminer toute la vie, et il y a encore des couches et des couches à travailler, mais je pense que mon travail aujourd'hui, ça serait cet espace-là, personnel et du cœur.
Et je vais terminer peut-être avec ce que j'ai observé. Ouais. Donc je te voyais avec ton ami à souffler sur les arbres ou à parler aux arbres. Quelle est la symbolique? Qu'est-ce que ça représente?
Ah oui, le tabac. Moi, le tabac, c'est médecine. Moi, la médecine du tabac, c'est... Ça m'a permis de guérir, de me rencontrer, c'est...
Quand tu parles du tabac, c'est intéressant parce que le tabac, beaucoup de gens fument et essayent d'arrêter de fumer.
Alors, le tabac, c'est une plante maîtresse. Donc, c'est une plante qui se marie avec beaucoup de plantes, à toutes les plantes, et c'est une plante qui s'utilise pour soigner. Donc, c'est une plante qui nettoie, c'est une plante qui cadre, qui donne de protection. C'est une plante masculine dans le sens que ça barre ancré. Le tabac, ça peut être une offrande. Et du coup, normalement, c'est utilisé seulement en des moments sacrés pour faire des nettoyages, pour connecter avec la nature. Et c'est du tabac pur, en fait. C'est un tabac pur. Ce n'est pas des tabacs et comme tu achètes, parce qu'on dit que le tabac que tu achètes en magasin, il va y avoir déjà les chimies, il y a une autre vibration. Donc les tabacs purs sont des tabacs qui guérissent. Et dans toutes les traditions ancestrales, tu pourras voir, les tabacs, c'est toujours une offrande. Pour souffler les sars, c'est une façon de se connecter à les sars, à la nature, remercier. Il y a vraiment une connexion qui se fait. Il y a beaucoup à Mexique, comme en Amazonie, ils nettoient, ils travaillent avec les tabacs. Donc pour moi, le tabac est... C'est une médecine qui me parle profondément. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle profondément.
Merci beaucoup, je crois que j'ai fait le tour. Ça va ?
Ouais, je suis nerveuse parce qu'en fait, c'est vrai, c'est la vie perso, là. Moi, j'ai rien.
Ça va ?
De toute façon, je pense qu'il faut rester vrai. Et puis, je trouve que c'est bien voir l'écouter aussi humain des gens. Parce que des fois, quand tu travailles dans le spirituel, tu crois que parce que tu es spirituel, tu fais du yoga ou tu es chaman, tu es parfaite. Mais en fait, on est juste humain. Et on a tous nos failles, on a tous nos erreurs. Donc, non, au contraire. Ça me demande aussi du travail, de lâcher prise. Mais bon, voilà. Très bien.
Merci, Antonia.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.